Il n'y a pas que le 8 mars. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Élodie.
Bonsoir Joël.
Merci au public de nous avoir rejoints ici au restaurant à la Canaille à Bourg-en-Bresse.
L'émission dure jusqu'à 19h. Vous pouvez toujours vous glisser dans le public à tout moment au 1 avenue Pierre-Sémard, donc à Bourg. Et bien sûr, nous écouter aussi sur les 90 FM de Radio B.
Voilà, il n'y a pas que le 8 mars, l'émission qui parle des droits des femmes tout au long de l'année, parce qu'en une seule journée, on ne peut pas aborder tous les sujets liés aux droits des femmes. Aujourd'hui, vendredi 20 septembre, c'est la veille des journées européennes du patrimoine.
Alors, patrimoine et pourquoi pas matrimoine. Patrimoine, ça vient de pater, des pères.
Ouais, j'ai cherché ce qu'en dit Alain Rey, c'est bien ça. C'est l'ensemble des biens hérités des pères, mais les pères P-E-R-E-S. C'est du bâti, des édifices construits par ceux qui en avaient, qui avaient des pouvoirs et des richesses.
Des richesses culturelles. Hein.
Ouais. Dans Il n'y a pas que le 8 mars, sur Radio B, nous inaugurons ces journées par la soirée du matrimoine. Faire évoluer les mots, c'est aussi faire évoluer la société.
C'est pas très très beau comme nom, matrimoine.
Je trouve aussi, comme toi, c'est vrai. Alors disons la soirée héritage au féminin. Et puis alors, quoi de plus symbolique que de côtoyer ici, au restaurant La Canaille, la salle Olympe de Gouges. Marie Gouze, c'est son nom, femme de lettres, écrivaine, journaliste, philosophe. Elle a pris position contre l'esclavage et trouvant que la révolution de 89 avait laissé de côté l'égalité entre femmes et hommes, elle rédige et publie une brochure qu'elle adresse à la reine. Les droits de la femme. Femme, réveille-toi. Le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l'univers. Reconnais tes droits. Et en préambule de cette déclaration, elle écrit « Homme, est-ce que tu es capable d'être juste ? C'est une femme qui t'en fait la question, tu ne lui ôteras pas du moins ce droit. » Prise de position qui lui ont valu des humiliations publiques et surtout de mourir sur la lame de la guillotine. Des municipalités françaises ont attribué le nom d'Olympe de Gouges à des établissements scolaires, à des voies et des bâtiments publics. Mais ce n'est pas du goût de tout le monde, parce qu'en fait, dans une petite commune dans le Var, à Néoul, lors de la fête des chasseurs, la plaque de la déclaration des femmes et de la citoyenne s'est vue brisée sous des coups idiots, dit le maire, des coups idiots de ballon. C'était pourtant la première ville qui affichait cette déclaration.
Autour et avec nous pour célébrer cet héritage culturel des passeuses d'histoire, nous faisons revivre ce soir toute une kyrielle de femmes dont le nom a traversé les époques. Marie Rouxel, Christine Fusarelli, Catherine Ravana, Anne Autissier et Patricia Debias nous accompagneront.
Radio B, les bonnes ondes.
Alors Marie, à toi, tu commences.
Eh bien bonsoir, donc moi quand Joël m'a invité à faire une chronique pour cette émission spéciale matrimoine, on s'en mêle un petit peu, je suis d'abord allée chercher, tout comme toi, une définition, et c'est M. Larousse qui m'en a fourni. Il me dit, lui, que le patrimoine, c'est le bien qu'on tient par héritage de ses ascendants. Et c'est vrai que la première femme à qui on doit quelque chose, ben, c'est bien notre maman. Alors la mienne, certes, ne m'a pas transmis un château ni un nom à particules, mais elle m'a quand même apporté les premières pièces à mon petit trésor perso en me transmettant un peu son attention aux autres, sa curiosité, son goût pour les arts. Alors, après, j'ai essayé de faire la liste des femmes, célèbres ou inconnues, qui ont participé à constituer mon patrimoine. Mais la liste était longue, longue. Entre les maîtresses, qu'on n'appelait pas encore professeurs des écoles, en se demandant si ça prenait un E à la fin, les amis d'hier et d'aujourd'hui, les auteurs, les philosophes, les peintres, les poétesses, les musiciennes, les militantes, sacrées casse-tête. Alors je suis allée prendre l'air, au moins virtuellement, dans les rues de Bourg-en-Bresse. Et là, surprise, enfin pas tant que ça hélas, il y a 673 noms de rues, d'allées, de places, de boulevards dans notre bonne ville de Bourg-en-Bresse. Et savez-vous combien de ces 673 lieux portent le nom d'une femme ?
Eh ben non.
Très exactement 15. Si on y ajoute quelques lavandières, les glaneuses, les dames, fières ou pas, et les demoiselles, on arrive péniblement à 23 évocations de personnages féminins dans la nomenclature urbaine burgienne.
Et donc, qu'est-ce que tu as trouvé, Marie ?
Eh bien, parmi nos glorieuses, bien qu'en Bresse ce terme soit un peu connoté, on recense deux peintres, Elisa Blondel et Suzanne Valadon, mais pas bien loin de son époux André Hutter quand même, deux aviatrices, Hélène Boucher et Maryse Bastier, qui côtoient Saint-Ex, Guilmer et Mermoz, deux femmes de lettres, la marquise de Sévigné et Juliette Récamier, qui ne font pas beaucoup d'ombre à Molière, Musset, Balzac, Camus, Malraux, Vigny, Lamartine, Beaumarchais et les autres, nos deux Marguerites d'Autriche et de Bourgogne, tout près de leur cher Philibert, une chanteuse, Édith Piaf, qui tient un peu compagnie à Georges Brassens, à Jacques Brel et à Jean Ferrat, parce que quand même, une comédienne, Simone Signoret, en compagnie d'Yves Montand, deux femmes politiques, Louise Michel et Simone Veil, qui a pris il y a peu ses quartiers au Square des Quinconces, une scientifique, Irène Joliot-Curie, la seule qui ait droit à son boulevard, et deux femmes dont je n'ai pas trouvé trace sur Wikipédia, mais qui ont accompli, je crois, de grandes choses à Bourg-en-Bresse, Maria Gérald et Louise Chevrier.
Ouais, je pense que Catherine pourra sans doute nous éclairer tout à l'heure.
Mais par contre, où sont Berthe Morisot, Frida Kahlo, Marie Laurencin, Sonia Delaunay, Léonore Fini, John Mitchell, Louise Bourgeois et toutes les autres artistes? On va chercher longtemps la place Georges Sand, l'allée Marceline Desbordes-Valmore, l'avenue Simone de Beauvoir, la rue Marguerite Duras, le boulevard Yourcenar, le square Colette, il n'y a même pas une petite ruelle Françoise Sagan. Aucune trace non plus des résistantes ou des sportives au cadastre burgien. À côté de ça, on trouve 10 docteurs, 5 abbés, 1 curé et 9 saints, 4 généraux et 5 maréchaux, 7 Alfred, 5 Alphonse, 6 Joseph, 7 Paul, 5 Jules, 6 Louis, 7 Georges et 3 Prosper, yop la boum, et un nombre incroyable d'illustres inconnus, enfin pour moi. Désolé, monsieur Alphonse Muscat, mais à part avoir sculpté tous les monuments aux morts des communes environnantes, on ne peut pas dire que votre renommée ait dépassé les limites de notre département. Quant à monsieur Octave Morel, mort à l'hospice de Bourg-en-Bresse en 1937, il a fallu que je plonge dans les abysses de l'Internet pour découvrir qu'il était archiviste et que ses derniers travaux ont porté sur la date de naissance de Philibert Lebeau, question essentielle qui ne manque pas de nous tarabuster tous les matins. Sinon, franchement, vous avez déjà admiré une œuvre des peintres Félicien Proust ou Alfred Chanut, vous ? Et enfin, avec tout le respect que je dois avouer n'avoir jamais lu une ligne du grand poète brissant Gabriel Vicaire.
Mais
je vais me rattraper. Mais par contre, on a été souvent coincés dans les embouteillages dans la rue du même nom aux heures de pointe. Alors certes, on pourra toujours se consoler avec un gros bouquet en l'honneur de nos 15 glorieuses, parce que ce ne sont pas les fleurs qui manquent dans les rues de Bourg. Entre les coucous, les tulipes, les lilas, les glycines, les églantines, les cyclamènes, le myosotis, le muguet, les iris, les boutons d'or, on va peut-être éviter peut-être les chrysanthèmes. À moins qu'on ne se réconforte avec une bonne poêlée de champignons, il y a tout ce qu'il faut. Des mousserons, des bolettes, des girolles et des chanterelles. Alors je pense que Catherine ne manquera pas d'idées pour remédier à ce manque d'imagination de nos édiles avec les femmes célèbres de l'Ain. On n'aimerait pas avoir à modifier l'orthographe de l'impasse des oubliés, tout près de la rue Bourgmaillet, en lui rajoutant un E.
Joli travail.
C'était une petite fille, du moins je le croyais, portait des espadrilles, j'avais encore mes jouets, mais un jour dans la rue, en sortant de l'école, je vois un inconnu qui a mes pas se colle. Un monsieur me suit dans la rue. J'en avais rêvé bien souvent. Et je suis d'avance tout ému. Qu'est-ce qui va se passer maintenant quand on m'a suivi dans la rue? Je pensais que ce serait épatant quand on m'a suivi dans la rue. Ce n'était qu'un vieux dégoûtant. Le cœur a ses mystères, je suis prise de passion pour un homme, un gangster, qu'a de la conversation.
Ah, le réalisme d'Édith Piaf, la destinée de ces petites filles abusées, des femmes déçues. Tiens, j'en profite pour passer cette info. Le samedi 12 septembre, donc la semaine dernière, à Paris, les lignes de métro ont été ouvertes toute la nuit. L'association Oser le féminisme lance une campagne contre les violences sexistes dans les transports en commun. Nous refusons que le harcèlement masculin et les violences sexistes fassent partie intégrante de nos trajets. Nous revendiquons le droit de toutes les filles et de toutes les femmes à utiliser les transports en commun en sécurité. Et nous voulons que l'ouverture nocturne des métros profite à toutes les femmes. Pour tous les renseignements sur cette campagne, eh bien, allez sur hashtag wagon sans couillon. Pas mal, hein? C'est une campagne collaborative. En tout cas, merci à Marie pour son travail. Tu disais, Marie, 673 noms de rues, d'allées, de places, de boulevards dans notre bonne ville de Bourg-en-Bresse et 15 qui portent un nom de femme. Il y a du pain sur la planche pour obtenir la parité dans ce domaine, renommer des rues, créer des rues, des allées, des squares, des boulevards supplémentaires.
Et puis on avait un doute hein, sur qui étaient Louise Chevrier et Maria Gérald, Catherine Ramana, je crois que vous les connaissez.
Maria Gérald, elle a aidé beaucoup, elle a beaucoup participé au foyer de personnes âgées. Et il y a au Bastion, il y a une salle qui fonctionne où les personnes âgées peuvent aller l'après-midi jouer aux cartes et se rencontrer.
Louise Chevrier, infirmière pendant
la Première Guerre mondiale. Oui, elle a été très, très active et je crois qu'elles sont mortes avec sa mère du typhus ou d'une maladie qu'elle avait attrapée au cours de ses exercices.
Alors, il y a quand même une plaque, hein, je crois, au lycée.
Il y a une plaque au lycée Quinet. Je ne sais même pas où elle est, cette plaque. Je ne l'ai jamais vue, d'ailleurs. Ouais. Non, j'ai beaucoup fréquenté
le lycée. Dans une cachette secrète du lycée Quinet.
On a bien fait, en tout cas. Mais j'ai appris deux choses ce soir sur les Bressanes. Inconnu pour moi.
Mais en tout cas, ça change, parce que Burgien, vous n'êtes pas sans savoir et sans avoir remarqué la nouvelle appellation du Square des Quinconces.
Mais
le conseil municipal du 24 juin dernier dénomme le Square des Quinconces pour le renommé Square Simone Veil. Qui écrivait dans la revue Critique Sociale, mais la femme d'État qui vient d'entrer au Panthéon, qui a rejoint Sophie Berthelot, mais vous savez, c'est la femme de Marcelin, le chimiste, Marie Curie, la chimiste, mais c'est aussi la femme. Et puis Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle, deux résistantes. Alors, de partout en France, que ce soit dans le Bas-Rhin, à Hohenheim, dans le 13e, à Paris, à Décines, près de Lyon, dans le Nord, à la Bassée, on n'oublie pas la Bretagne, parce qu'à Ploërmel aussi, même dans le Midi, à la Ciotat, Simone est célébrée, c'est-à-dire l'universalité de la dame, grande figure consensuelle de notre époque.
Catherine Ravana, vous êtes en train de dresser un répertoire un peu particulier. Qu'est-ce qu'il y a dans ce répertoire ?
Bien, j'essaye de trouver des femmes dans l'Ain qui ont fait des choses, qui sont connues ou pas connues. La difficulté, c'est pour celles qui ne sont pas connues et qui ont laissé une trace de leur passé dans les activités qu'elles ont exercées, soit sportives, soit des femmes qui ont eu des responsabilités au niveau agricole en particulier. Il y a eu un grand engagement des femmes sur le monde agricole.
Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de créer ce répertoire ?
Je crois bien que j'ai vécu toute ma vie entourée des femmes, puisque depuis la pilule, l'avortement, les créations d'associations et enfin dans mon poste, je crois quand même que j'y ai rencontré, croisé des femmes assez extraordinaires, dont on ne parle jamais et qui sont toujours dans la modestie.
Justement, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Qu'est-ce qui vous a frappé ? Qu'est-ce qui vous a marqué dans ces recherches ?
Beaucoup de femmes dans la résistance, dans l'Ain, ça a été quand même qui ne sont pas reconnues. Et alors, chaque fois, on leur donnait ce que les hommes ne voulaient pas faire, parce qu'ils pensaient que c'était dévolu aux femmes, c'est-à-dire qu'elles portaient des tracts, elles passaient des messages. Et en fait, si ces tracts et ces messages n'étaient pas passés, je ne pense pas que la résistance était aussi organisée qu'elle l'a été dans notre département.
Est-ce que c'est facile de trouver des informations justement sur les femmes oubliées ?
Non, ce n'est pas facile. Ce qui est difficile en particulier, c'est toute la partie de la Bresse qui va entre Mâcon et Châlons en gros, parce que là, c'est tout un monde agricole et qu'il n'y a pas d'écrit. Donc il est difficile de trouver des traces pour remonter une histoire de ces femmes. J'en ai quelques-unes.
Comment vous procédez ?
Non, c'est pas facile. J'ai beaucoup relu de choses. beaucoup d'écrits, beaucoup de... Tout le monde me dit, mais va aux archives. Mais quand on va aux archives, il faut savoir ce qu'on va y chercher. Mmh. Bien sûr que quand j'ai un nom et que j'ai besoin de rechercher aux archives, je trouve. Le problème, c'est de trouver des noms et des traces de femmes qui avaient des choses. C'est vrai que sur le budget, tout le budget, il y a beaucoup de choses, parce qu'il y avait quand même tous ces hobereaux qui écrivaient beaucoup. Il y a des femmes aussi qui ont fait des choses remarquables, y compris dans les aristocrates, hein, qui ont... Il y en a une en particulier qui a été parmi les premières féministes qui manifestaient à Lyon dans les années 1880. Mais sur la Bresse, j'ai beaucoup de difficultés là.
Alors pour l'émission de ce soir, on a choisi d'en sélectionner quelques-unes parmi plusieurs. La première, c'est Henriette d'Angeville, sportive de haut niveau.
Oui, j'aime bien l'histoire d'Henriette d'Angeville. Elle était 1794-1871. Ses parents sont arrivés à Hauteville et elle s'est tout de suite mise à herboriser, à marcher, marcher, marcher. Et puis, à l'occasion d'un voyage à Genève, elle a vu le Mont Blanc. Et ça a été un déclic. Elle s'est dit, il faut que je grimpe cette montagne. Donc, elle s'est entraînée. Il y avait certes des guides qui l'aidaient pour lui faire des entraînements. Et puis, elle est montée toute seule en haut du Mont Blanc. Elle raconte ça, d'ailleurs, dans un livre. C'est assez impressionnant. Et elle est montée en haut du Mont Blanc par ses propres moyens, accompagnée des guides. Il y a des moments où elle s'endormait, donc il fallait qu'elle se relève pour repartir. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on est en grande rivalité avec Chamonix sur cette affaire, parce qu'à Chamonix, un petit peu avant, il y avait une employée d'un restaurant, qui, la Paradis, on l'appelait, qui était montée avant au Mont-Blanc, mais elle avait été portée par les guides tout le long. Donc à Chamonix, ils disent que eux, c'est la première, mais non, c'est bien la nôtre qui est arrivée la première, par ses propres moyens.
Alors, c'est intéressant, parce que quand on est à Chamonix, il y a donc des photographies en bas. Mmh. Et
les, il n'y a que des hommes.
Il n'y a que des hommes. Alors, on voit quand même une femme. Alors, je ne sais pas si c'est un Angeville, mais en tout cas, ce qui est important et intéressant de voir, c'est comment elles sont habillées. On n'est pas du tout avec les mêmes... Elles sont en robe, avec des chaussures, peut-être des crampons dessus, mais voilà.
Et là, elle est montée avec des échelles. Il passait les crevasses avec des échelles à l'époque. Donc, c'est un grand exploit pour elle. Mmh.
Alors, en fait, tu parles de cette personne-là sportive, mais enfin, dans le département, si on parle des sportives, il y a quand même beaucoup de sportives. Alors, beaucoup de gens qui ont fait de l'aéronautique.
Alors là, c'est tout le domaine de l'aviation,
ouais.
En particulier Ilse, qui est une aviatrice très connue, qui a eu un parcours aussi tout à fait intéressant, et elle a vraiment réalisé des exploits au niveau de l'aviation.
Ouais.
Mais je pense qu'il y a aussi toutes les sportives, on a quand même toutes les grandes skieuses qu'on a eues chez nous, les biathlones. Je fais exprès de dire biathlon. Et puis, on a quelqu'un, mais je n'ai pas la biographie complète pour l'instant, qui est Marcel Roset, qui est de Bourg, et qui a été une grande championne de natation, et qui a fait beaucoup de sport dans sa vie, et qui a été vraiment, qui a marqué le département en natation dès le début.
Alors moi, j'ai visité le square des Quinconces, enfin le square Simone Veil, et j'ai croisé la route de Marcel Appleton. Vous parliez des résistantes.
Alors Marcel Appleton, elle a eu un parcours aussi, oui, très particulier. Elle a fait partie des premières femmes résistantes. Et elle avait décidé dès le début de faire quelque chose parce qu'elle était anti-allemande, anti-pétiniste. Et elle a organisé beaucoup de réunions à Bourg. Et elle a rencontré très, très régulièrement et de l'Estrin et Gastaldo. Et puis, elle a été arrêtée un nombre de fois incalculable par la Gestapo. Et elle a été condamnée en 1941 par le tribunal de correction de Bourg à 3 mois d'emprisonnement, avec sursis et 500 francs d'amende. Et puis après, la Gestapo qui a récupéré sa maison, là où elle habitait. Donc, elle a été obligée d'abandonner la résistance, mais elle a été une des fondatrices de la résistance de Bourg, c'est sûr.
Oui, alors dans le répertoire, ben on saute un peu du coq à l'âne, hein, parce que, puis aussi dans les époques, hein, dans le répertoire que tu es en train de construire. Alors moi, j'ai trouvé plusieurs noms de femmes qui travaillaient aux Soirées Bonnet à Jugerieux. Alors aujourd'hui, on vient y découvrir les anciens métiers, hein, l'histoire des étoffes, patrimoine industriel, exceptionnel des pliants publicitaires de ce lieu. En fait, c'est un grand convent industriel, comme écrit Lafarge, hein, dans son droit à la paresse. Ça chauffe du côté de la Croix-Rousse à un certain moment, et c'est la première révolte des canuts. Et donc, les soyeux lyonnais délocalisent l'activité lyonnaise et ils viennent donc dans l'Ain. Mais comme tous ces lieux de production, en fait, les femmes qui sont derrière et sur les machines, elles ne sont pas célébrées vraiment à leur juste valeur. Alors que le patrimoine, c'est elle. Alors patrimoine, matrimoine, c'est elle qui ont fait que l'usine en parle encore. On ne connaît pas vraiment tout le nom des ouvrières, mais il y en a quelques-unes que tu as retrouvées. Marguerite Beltrami ?
Beltrami, oui, Marguerite. Ouais. Alors elle avait un parcours un peu particulier dans cette histoire du juge Jurieux. C'est-à-dire qu'elle était chargée de recruter de jeunes Italiennes, parce qu'il y avait beaucoup d'Italiennes qui venaient de régions très difficiles, Brescia en particulier. Et donc, elle avait tout un parcours. Elle s'était liée avec je ne devrais pas employer ce mot. Elle était proche d'un curé qui lui indiquait les villages où on pouvait retrouver de jeunes filles qui pouvaient venir. Donc, elle suivait les parcours. Elle allait récupérer les jeunes femmes dans les villages. Après, elle faisait des démarches auprès des préfectures pour qu'elles puissent franchir la frontière. Et quand elles arrivaient, elles étaient accueillies à Jugerieux, un peu endoctrinées quand même par les sœurs, il faut bien le dire. Elles n'avaient pas beaucoup de liberté. D'ailleurs, il y a des traces terribles qui sont écrites dans ces mémoires-là. Et donc, elle organisait toute l'arrivée des jeunes filles. C'était relativement chaleureux, j'allais dire. On n'était pas dans un endoctrinement qui marchait la baquette. Quand elle les amenait, il y avait une grande chaleur entre elles. Elle les soutenait, elle essayait de les installer le plus correctement possible. Elles étaient très jeunes, hein. Certaines avaient 13-14 ans.
Oui, enfin bon, ça nous rappelle quand même des allées et venues aussi pour aller chercher de la main-d'œuvre. Hein, voilà.
Parmi ces femmes, il y a aussi les mères, la mère Blanc ou encore la mère Brasier.
Oui, la mère Brasier, elle a une histoire un peu particulière. Sa mère est décédée très très jeune, je crois qu'elle avait 10 ans, et à 19 ans, elle s'est retrouvée enceinte. Et bien sûr, la famille l'a mis dehors du restaurant qui marchait déjà en Bresse. Et donc, elle est partie travailler à Lyon dans des établissements. Et puis un jour, elle a décidé d'installer son propre restaurant. Et après, c'est devenu ce qu'on a connu. Et c'est encore sa petite fille qui maintenant tient l'affaire Brasier.
D'accord. Si on te demandait comme ça trois ou quatre noms qui pourraient être donnés à des édifices publics ou à des nouvelles rues?
Ben écoutez, je vais vous laisser ma liste parce que j'en ai retrouvé beaucoup. Je ne me sens pas le droit de choisir. S'il y a quand même quelqu'un qui est toujours de ce monde, d'ailleurs, c'est Madame Lacroix. On a vu beaucoup d'articles sur elle, qui a été une des grandes résistantes de Bourg. Elle était au lycée, la kiné, et elle a beaucoup été proche des Pio Dadar. Et je pense qu'elle, elle mériterait. Bon, elle est toujours de ce monde. Je crois qu'elle est très âgée maintenant. Elle mériterait quand même qu'on la reconnaisse dans cette ville, en tout cas. Et puis, je pense que celle dont je parlais tout à l'heure, Marcel Roset, c'est quand même une sportive de haut niveau dont jamais personne n'a parlé. Donc, je pense que ce serait quand même pas mal aussi qu'elle puisse être citée. Et puis, il y en a plein d'autres.
Hein. D'accord. Donc, on refera d'autres émissions dessus. Alors, lorsque j'ai fait une recherche sur les noms donnés aux rues des villes, parce que j'ai aussi recherché les noms des lieux publics, des écoles, des collèges, des centres de soins, pour les collèges de Bourg, il y a deux noms qui ont apparu. Alors, il y a Jeanne d'Arc et Victoire Daubier. La première demanderait certainement une émission à elle seule, Jeanne d'Arc, ça c'est sûr. J'ai choisi pour Victoire Daubier d'aller à la rencontre de collégiens qui, sous la direction de leur professeur d'histoire, Damien Cobelzuc, ont fait un joli travail, vous allez voir.
Je vais vous présenter Julie-Victoire Daubier, née en 1824, morte en 1874.
L'école, elle était obligatoire avant que pour les garçons, mais en fait, les femmes étaient vues comme intellectuellement inférieures aux hommes, Beaucoup de femmes étaient dans des situations sociales fragiles, puisque après c'était encore plus fragile pour les femmes pauvres.
Julie Victoire Daubier, elle vit dans une famille très nombreuse, 8 enfants, élevés par leur mère, car son père est décédé dans les Vosges. Elle va à l'école et elle obtient les 2 diplômes, un diplôme qui serait égal à celui qu'on passe en fin de CM2 et puis le brevet. Son frère aîné, non plus grand, il lui enseigne les matières qui ne sont pas enseignées à l'école aux filles. Par exemple, le latin, le grec et d'autres matières encore.
Elle a voulu passer son baccalauréat. Elle a déjà dû se battre pour rentrer dans l'académie de Paris et d'Aix. Elle a essayé pendant 3 ans d'y aller, mais ça n'a pas marché. Et elle était très tenace pour pouvoir être candidate. Et en 1961, elle a essayé de rentrer dans l'académie de Lyon en 1861. Et elle a été la première femme en France à obtenir le baccalauréat.
Ses combats et ses engagements féministes dans l'éducation et l'instruction des filles, les études et les diplômes, surtout les plus pauvres. Dans le domaine politique, pour que les femmes obtiennent le droit de vote comme les hommes.
Bah là, je vais lire la phrase qui est inscrite sur une fresque qui est à côté de son cimetière. La femme deviendra dans la société tout ce qu'elle sera capable d'être.
Aujourd'hui, les résultats du baccalauréat, 57% des personnes sont des filles à l'avoir réussi et 43% sont des garçons.
Collège Victoire Daubier Saint-Cyr.
Alors c'est quand même super, moi je me suis régalée parce qu'en fait on est à peine à 3 semaines de la rentrée. Les jeunes ont lu ce qu'ils avaient écrit, donc c'est vraiment un travail de recherche. Alors bon, chapeau à Damien, hein. Et puis de voir ces jeunes de 14 ans qui sont aussi impliqués dans leur recherche, moi ça m'a fait du bien. Difficile de parler des femmes dans la région sans nommer Marguerite, hein, il le dit.
Oui, Anne Autissier, vous êtes bibliothécaire archiviste au Monastère Royal de Broue. Alors ici, tout le monde connaît au moins de nom Marguerite d'Autriche. Pour resituer, c'était qui Marguerite d'Autriche ?
Alors Marguerite d'Autriche est une femme puissante de la Renaissance. Elle est puissante parce que elle fait partie de familles qui en quelque sorte dirigent et je dirais possèdent l'Europe, à savoir donc par son père Maximilien Ier qui est empereur, qui est roi d'Espagne et en même temps des pays d'Autriche, et d'autre part par sa mère Marie de Bourgogne qui est la fille unique de Charles le Téméraire. Charles le Téméraire, rappelons-le, est mort en 1477 et devant Nancy. Et donc Marie de Bourgogne, elle, mère de Marguerite d'Autriche, va mourir à 25 ans d'un accident de chasse, en fait, blessée par son cheval. Et sa fille, se retrouve à 3 ans, sans sa mère. Et donc Louis XI va profiter de cette situation. Donc Louis XI, hein, l'universal aragne, c'est-à-dire ce roi de France qui a en quelque sorte, fait de l'État... a étendu en fait la France et l'a pensée vraiment comme un État au-delà de l'Île-de-France, possession royale. Eh bien, il fait main basse sur les possessions bourguignonnes et il va contraindre Maximilien Ier à passer un traité avec la France, le traité d'Arras, afin d'organiser le mariage de la jeune Marguerite avec son fils aîné Charles, âgé de 13 ans, alors que Marguerite n'a que 3 ans.
Voilà, elle a 3 ans.
Elle a 3 ans. Donc en fait, si on synthétise, j'allais dire, la vie de Marguerite d'Autriche, eh bien, pour la caractériser, c'est une vie en 2 grandes parties. La première partie, c'est une série de mariages. Donc, premier mariage à 3 ans avec Charles VIII, mais elle est répudiée à l'âge de 11 ans, car Charles VIII va finalement épouser Anne de Bretagne. Et Marguerite est renvoyée à son père et garde en cela une profonde rancœur à l'égard de la France. Et justement, elle a été élevée dans un environnement de femmes, hein, ce qui est une chose très importante, et notamment, elle a été élevée par la sœur du dauphin Anne de Beaujeu. Donc elle a pris à cette époque goût pour les belles choses et pour la politique. Donc c'est une femme je dirais, sensible à la politique, qui est en gestation déjà à cette époque. Et donc, rentrée aux Pays-Bas, donc, elle doit épouser le fils du roi Ferdinand II d'Aragon, Juan, en fait, et donc gagne par un voyage assez compliqué, en fait, donc par l'Angleterre et ensuite en descendant la côte jusqu'à l'Espagne, Burgos. Donc elle doit gagner l'Espagne pour pouvoir épouser donc ce jeune homme. Et donc les deux jeunes époux s'entendent à merveille, et malheureusement donc son deuxième mari, si je puis dire, décède en fait de maladie quelques mois seulement après son mariage. Donc deuxième déception terrible, d'autant plus que Marguerite en fait a 17 ans à accoucher donc d'un enfant qui est mort-né. Donc après 2 ans de séjour en Espagne, donc elle reprend donc pour la seconde fois sa route des Pays-Bas, et donc étant donné qu'elle se retrouve au sein d'alliances stratégiques recherchées en fait par son père et son frère, donc elle est mariée à Philibert le Beau, donc duc de Savoie. Et là encore, c'est un mariage heureux, mais qui ne va pas durer très longtemps, 4 ans seulement. Donc ils ont le même âge, donc lui aussi est né en 1480, et malheureusement, donc il va décéder en fait en septembre 1504. Il meurt prématurément à l'âge de 24 ans, donc à la suite d'un malaise lorsqu'il se désaltère d'une eau glacée à la suite d'une partie de chasse. Donc encore une fois, second deuil.
Pas beaucoup de chance là, Marguerite.
Oui, tout à fait. Exactement.
Quand on visite le monastère, quand on visite le musée, la figure de Marguerite, elle est hyper, hyper représentée, hyper utilisée. C'est un peu devenu la marque de fabrique du monastère.
Oui.
On a ouvert au public ses appartements.
Oui,
Marguerite est représentée comme une femme autonome. Et est-ce que dans la réalité, elle pouvait vraiment prendre position? Parce que là, dans ce que vous venez de nous expliquer, on a l'impression qu'elle s'est un peu baladée au gré des arrangements diplomatiques, on va dire.
Donc en fait, effectivement, comme vous le dites, elle va gagner cette autonomie parce que justement, à la suite de tous ses veuvages et ayant perdu donc un second enfant en couche, elle décide de ne plus se marier et devient régente des Pays-Bas. Et donc elle va être régente des Pays-Bas pendant un certain temps, jusqu'au moment où son neveu et filleul Charles Quint devient roi d'Espagne. Et à ce moment-là, elle doit abandonner la régence des Pays-Bas, mais elle l'abandonne pour un temps très court, puisque en fait elle va donc obtenir de Charles Quint, s'il devient empereur, de redevenir régente des Pays-Bas. Et donc c'est en cela qu'elle est une femme politique, c'est-à-dire que elle va sillonner les routes, parce que donc évidemment en termes de diffusion, vous pouvez vous imaginer que bon, il y a les lettres certes, mais la présence en fait d'une personne d'un si haut lignage est aussi très important pour faire valoir une autorité. Donc elle va sillonner effectivement les Pays-Bas pour pouvoir en fait obtenir assez d'électeurs afin que Charles Quint devienne empereur en 1519, et il tient sa promesse. Donc elle redevient régente des Pays-Bas, et ce jusqu'à sa mort, donc en 1530 à l'âge de 50 ans.
Si on revient à Bourg-en-Bresse, son héritage, c'est le monastère
tout
de Brou.
Tout à fait, exactement.
Pourquoi est-ce qu'elle a décidé de construire ce bâtiment?
Elle a construit qu'elle a fait aménager et en même temps, je dirais, développer ce monastère, parce que donc elle désirait y placer la sépulture de son époux Philibert le Beau et de sa belle-mère, donc Marguerite de Bourbon. En effet, elle voyait là une façon d'exprimer plusieurs choses. D'abord, son amour pour son mari, le fait de désirer d'être enterrée auprès de lui, et de bâtir quelque chose qui marque les esprits de par, en fait, sa beauté. Et donc, elle a lancé la construction de Brou en 1506, mais elle ne l'a jamais connue finie, en fait. Donc, et elle y a très peu résidé à partir du moment où elle est devenue vraiment une femme politique aux Pays-Bas. Donc, ce qui marque effectivement dans le monastère, c'est sa beauté architecturale, effectivement. Le fait que aussi, à travers l'histoire, il nous soit parvenu de façon miraculeuse, c'est-à-dire qu'il faut penser aussi à Thomas Ribou, qui donc a œuvré pour que ce monastère en fait ne soit pas pillé au moment de la Révolution française et ne soit pas vendu, c'est-à-dire qu'il a réussi à en dissimuler les richesses et d'autre part par la suite a montré l'intérêt justement au district de l'Ain de ne pas le vendre en fait parmi les autres biens révolutionnaires.
Donc et si on revient à Marguerite, parce que notre sujet étant quand même les héritages des femmes, est-ce qu'elle a participé à d'autres projets culturels?
culturel. Elle a, alors projet culturel, on peut parler effectivement de projet culturel en termes d'immobilier, mais c'est-à-dire que bon, les femmes puissantes de cette époque ont des, comment dire, ont construit des châteaux particulièrement beaux. Elle a participé aussi à, je dirais, un essor donc pictural très important parce que donc de par sa collection, on sait que elle a été donc l'une des femmes qui a le plus été mécène en art. Et c'est ça, c'est une chose qui est très importante. Donc en termes de collection, en fait, elle a possédé donc, notamment des tableaux extrêmement célèbres comme les époux Arnolfini de Van Eyck, donc, qui date de 1434. Elle a donc elle a vraiment contribué à aussi bousculer le style des peintres de cette époque, notamment en fait Bernard von Orlais, qu'elle a engagé comme peintre portraitiste donc en 1518 à sa cour. Et donc Ébroux possède encore ces deux tableaux, Charles Quint et Marguerite, qui sont deux portraits absolument magnifiques. Elle avait aussi donc une bibliothèque qui pour cette époque est très riche, 300 manuscrits. Donc la plus riche à l'époque, c'était celle de Charles VI qui comprenait 1000 livres. Alors pour nous, ça peut sembler effectivement dérisoire, mais en fait, ce sont des bibliothèques extraordinairement riches. Et dans ces livres, il y avait les très riches heures du duc de Berry. Donc autour d'elle, elle a créé un véritable phénomène d'émulation artistique.
Voilà. Anne Autissier, je rappelle que vous êtes bibliothécaire, oui, archiviste au monastère, oui, royal de Brou. Pour vous, comment résonne cette notion d'héritage au féminin ?
Alors cette notion d'héritage au féminin résonne aujourd'hui à travers, je dirais, l'empreinte de Marguerite d'Autriche sur la façon dont le monastère gère actuellement ses collections, donc à la fois au niveau des acquisitions et des expositions. Donc en termes de, comment dire, en termes d'acquisition, donc tout d'abord, en fait, vous parliez d'Elisa Blondel, hein. Elisa Blondel est en fait une figure artistique, je dirais, importante à Bourg, même si effectivement elle est décédée prématurément de la tuberculose à 34 ans, mais elle a laissé en fait par dépôt d'état donc le deuxième tableau, si je puis dire, le numéro 2, donc d'une collection de dépôt d'état, donc en 1843, au moment où le musée donc Lorrain est en pleine gestation. Donc musée Lorrain qui ensuite a été installé en 1922, donc dans Brou même, dans le monastère royal de Brou. Et donc de même en termes d'acquisition, donc pardon, oui.
Non, je pense que il y a énormément de richesses et, oui, qu'on sera très contente d'aller retrouver et de, voilà, de, oui, d'aller découvrir.
Oui, exactement. Rosalie Caron, voilà. Félicite Fauveau, donc dont l'ange musicien a été acquis dernièrement, qui sont des femmes effectivement peintres du,
voilà,
19e siècle.
Une volonté
siècle,
du monastère de valoriser aussi ces,
exactement,
femmes,
oui,
à
et à travers les expositions à venir, justement, donc, d'accord, l'une d'entre elles en 2020 sur Suzanne Valadon et les femmes artistes à l'époque de l'art moderne.
Ça sera l'occasion.
Merci. Oui, tout à fait.
L'occasion de vous y retrouver. Il n'y a pas que le 8 mars, en direct du restaurant La Canaille, un avenue Pierre-Sémard. Voilà, vous pouvez nous rejoindre encore, c'est possible. Alors, ni château, ni nom de particules, comme disait Marie Rouxel en parlant de sa maman tout à l'heure, de sa mère tout à l'heure, mais des gestes, des images, des pensées qui restent gravées en héritage. Christine.
Oui, oui, alors moi je suis allée chercher du côté de la poésie. Et j'ai trouvé une femme qui s'appelle Marie-Hélène Proutot, c'est une bretonne, qui est brestoise de naissance et nantaise d'adoption. Et parmi ses œuvres, il y a un recueil qu'elle a publié en 2015, aux éditions La Part Commune, et qui s'appelle La Petite Plage. Et cette petite plage, c'est un endroit situé dans le Nord Finistère, c'est un endroit qui lui est familier. Et sa prose poétique, dont on va entendre un extrait, transcrit les émotions que fait naître en elle ce paysage breton. Et dans ce texte en particulier, qui s'appelle « Le promenoir des songes », il est question de sa grand-mère et de ce qu'elle lui a légué. Le promenoir de songe. Sur la grève, je la vois récolter du goémon d'hiver. Corps maigre, courbé en deux. Une vieille femme du genre à parler à ses fleurs et qu'on doit dire un peu dérangée. Elle s'active tranquillement, fouillant d'une main experte les fucus noirs. Son affaire ? Ramasser sa floraison nourricière dans l'idée de l'enfouir ensuite pour amender la terre de son jardin. Il faut ce geste quand la terre est en repos et les graines en dormance. Naîtront peut-être dans le jardin de la vieille dame des fleurs aux couleurs et aux textures multiples, des hortensias, des glaïeuls, des roses, des fuchsias. Ma grand-mère avait l'habitude de ramasser un peu d'algues quand elle venait nous voir. Je revois ses mains, tannées, couvertes de taches de rousseur, et l'ongle dur, prêt à couper ou gratter. Les mains révèlent la trame des êtres, leur part d'humanité. Les mains se taisent, si fort parfois. Mais elles ont leur langage et leur vie, faites de signes simples, offrandes de ces mains ouvertes. Il y a un secret dans la terre, il y a un secret dans la mer. Le goémon, ma petite fille, c'est bon pour les racines des plantes. Elle m'a appris que la mer peut conjuguer ses efforts à ceux de la terre pour offrir des promesses de vitalité végétale, manière de greffer un futur aux choses, de préparer les éclosions à venir. Ce legs, je le garde intact. Impossible d'oublier son code de jardinière contemplative. Elle pouvait s'émerveiller devant chaque plant, devant chaque pousse de fleurs, en ce jardin qui fut son royaume minuscule, après la mort de son mari. C'est elle aussi qui m'a appris l'art du bouturage. Bouturer les pousses de bois tendres, aussi bien que les mots éclos dans le silence. Ici et là, tout est en devenir. Il peut suffire d'un geste maladroit pour briser le lent parcours de la vie des plantes. Elle le savait, comme le savaient tous mes aïeux. C'est pareil pour les mots. Je l'ai découvert plus tard. Et puis, il faut du temps. Attendre sans hâte l'invisible et continue poussée de la sève, végétale ou langagière. La laisser mener sa vie à bas bruit. Les choses adviennent au bout du silence. Se jauge à ce qui en jaillit. En confiant à ces rouleaux d'algues mon histoire de la petite plage, je voudrais faire comme elle me l'a appris. Recueillir ce qui multiplie et féconde l'existence. J'ai l'impression que ma mémoire de sable est bue par la mouvance de la marée. Pourtant, des trous d'eau sur la grève remontent les souvenirs. Par bribes, je pense à tous mes parents, à ces hommes et ces femmes qui m'ont précédée. Je sens leur présence sur la petite plage comme un champ magnétique autour de moi, revenant rassemblé sur ce promenoir de songes. C'est étrange. Leur visage reste blanc, fondu dans une totalité indistincte, disparu dans l'écume des années. Leurs noms dorment sous les arborescences laissées par les vagues sur le sable. C'est la silhouette de ma grand-mère qui se dessine en tête de ce cortège de témoins muets, comme si elle convoquait la communauté des vivants et des morts. Ma grand-mère gigogne, entourée et pleine de toutes ces vies qu'elle recueille en elle. J'attends que ces gestes sortent peu à peu des milliards de grains de sable. Yeux écarquillés, je redeviens l'enfant qui n'était que regard. Je laisse sa vie affleurer dans la mienne, je pose mes mains dans les siennes, par-delà les années. Je crois sentir sur ma peau leur tiédeur vivante. Je pense à ces mains qui ont baratté l'ordinaire de la vie, souffrance, joie, drame, qui se sont penchées sur les berceaux, ont joué avec les boucles de cheveux ou apaisé les nourrissons bouillants de larmes. Ces bégaiements de petite vie commençante, elle s'y est donnée, elle qui s'échina dans ses 10 maternités. À côté, rude et taciturne, des mains d'hommes, mari et fils, qui ont porté tant de charges dans les saisons de patience. Quintaux de blé, de goémon, de vie promise. Des gestes commandés par la terre, suspendus à la course des nuages et à l'imprévisible partition qui se joue entre le ciel et le vent. ses mains qui ont cueilli quelques épis de blé mûr, puis frotté le grain entre le pouce et l'index pour vérifier si la balle se sépare bien. Juste à point pour la moisson, si l'épi s'égrène facilement, il faut bien veiller au grain de la vie.
Superbe ce texte. On sent les embruns, l'odeur de la laisse, la douceur de la main, on entend les mots de cette femme. Et puis le temps passé transmis par la plume. Merci Christine. Christine, que vous retrouverez tous les mois, dire, lire et raconter les poètes.
C'est dans Ça manque pas de poésie, les deuxièmes jeudis du mois sur Radio B. Nous partons vers une autre sensibilité du côté du rock.
Oui, ce sera moins doux, désolée d'avance. Bouchez-vous les oreilles, ceux qui ont un peu du mal avec ça. Donc quand vous m'avez proposé de faire une chronique sur l'héritage rock féminin, je me suis dit que pour en parler avec le plus de justesse possible, il fallait remonter chronologiquement, mais bien avant le punk, même avant le rock. Donc pour effectuer des recherches très approfondies scientifiquement, j'ai pris mon ordinateur portable et j'ai tapé « musique classique plus Wikipédia » sur Google.
Tu sais qu'on n'a pas trois heures devant nous. Hein.
Vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué. Je clique sur le lien Wikipédia, alors là je vous dis pas une seule photo de femme sur la fiche Wikipédia. J'ai cherché. Hein. Ils sont vraiment mis à plusieurs, je pense, pour exclure les femmes et mettre que des chromosomes Y sur cette page. Alors, des nanas compositrices, il y en a eu, et des géniales. Mais bizarrement, c'est rarement elles qu'on retrouve dans les livres et dans les concerts symphoniques. Et c'est pareil depuis le début du XXe siècle. Les musiques qu'on qualifie de populaires et rock par la suite, en opposition à la musique classique, ont été jalonnées de tas d'artistes femmes qui ont fait des choses extraordinaires. Mais pour beaucoup d'entre elles, on est sur un succès d'estime. Elles sont citées par des gens un peu pointus sur la question, mais plus rarement par les citoyens lambda ou les grands médias. D'où une création d'un petit medley par moi-même, de ma propre production, pour vous faire entendre des bouts de morceaux d'artistes féminines majeures. Donc certaines, vous les connaissez, d'autres pas, j'imagine. Donc des artistes féminines majeures dans l'histoire générale du blues, du rock et de ses dérivés. Donc on peut y aller, c'est une... moteur. Alors, on commence par celle surnommée l'impératrice du blues, c'est Bessie Smith, chanteuse de blues la plus célèbre dans les États-Unis des années 20. Sans elle, pas de Janis Joplin, pour laquelle elle a été une source d'inspiration majeure. Bessie Smith. Ensuite, vous avez eu Sister Rosetta Tharp, un petit peu ma chouchoute. Donc, vous croyez que c'est Chuck Berry et Elvis qui ont inventé le rock'n'roll ? Eh ben non. C'est elle, entre autres, qui a initié le genre. Elle a été la première à accompagner du gospel à la guitare électrique dont elle jouait monstrueusement bien. On enchaîne avec une autre chouchoute, c'est toutes mes chouchoutes en fait. Vanda Jackson, une des premières femmes à avoir eu du succès dans le rock'n'roll, souvent qualifiée d'équivalent féminin de Jean Vincent, car oui, quand on dit un compliment à une femme, il faut comparer à un homme, sinon ça marche pas. Plus tranquillou, plus doux, on a Joan Baez, surnommée la reine du folk, tout le monde connaît, hyper politisée, féministe, engagée dans la lutte pour les droits civiques contre la guerre du Vietnam. Tout le monde connaît ça, c'est une image de femme indépendante et forte dont la période avait bien besoin, je pense. On est dans les années 60. Fin des années 60, Janis Joplin, la reine de la soul psychédélique. On sort des stéréotypes de la femme qui doit être jolie et se tenir bien sur scène. La nana est défoncée sur scène 24-24. Hein. Pas d'une beauté folichonne, elle a une voix rocailleuse. Et en un sens, c'est quand même une bonne libération dans le milieu. Très connue aussi, Patti Smith, donc clairement l'une des personnes dont on considère qu'elle a en grande partie posé les bases du mouvement punk. J'ai dit personne, j'ai pas dit femme, ça il faut quand même le rappeler. Personne. On enchaîne avec Suzy Quatro. Qui n'est beau cet enchaînement ? Suzy Quatro, on est au début des années 70, et à son époque, elle est la seule femme leader d'un groupe de glam rock. Suzy Quatro qui a été l'influence majeure du groupe dont on parle juste derrière, qui était très connu aussi. Les Runaways, groupe de rock exclusivement féminin, avec à la guitare Joan Jett, à qui on doit I Love Rock and Roll. On est à la deuxième moitié des années 70, là. À peu près à la même époque à New York, on a les origines de la scène punk qui commence à se former, au milieu desquelles on trouve Blondie, avec en leaduse Debbie Harry. On on continue, ça va vite. De l'autre côté de l'Atlantique, pas beaucoup plus tard, en 76, déboule Siouxsie et son groupe Siouxsie and the Banshees. En vrai, ça se prononce Siouxsie. Elle est considérée comme une des artistes britanniques les plus influentes de la scène rock et punk, qui plus est, et très méconnue en France, sous-connue et sous-vénérée, je dirais, de mon point de vue. On reste à Londres avec un groupe qui s'appelait les Slits, les Fentes en français, donc vous comprenez dans le texte, hein. Groupe féminin de punk majeur, plus ou moins tout le monde se foutait d'elle à leur époque, et c'est des décennies plus tard qu'elles reçoivent les honneurs et qu'elles deviennent cultes. Et bien sûr, du moment, au moment où le groupe existait, tout le monde s'en foutait. Voilà, ça se durcit, on passe au milieu des années 80 avec les L7, groupe américain de rock associé au mouvement grunge, et Riot Girl par la suite. Une sorte d'héritière directe de Joan Jett, avec qui elles sont potes d'ailleurs. 89, naissance du groupe Hole avec Courtney Love. On peut le dire, c'est la femme de Kurt Cobain, ça fait mal de le dire, mais bon. Groupe ultra ultra populaire durant les années 90 et que des femmes, toujours. Ce qui nous mène à 91, premier album de Bikini Kill, groupe mené par Kathleen Anna, considéré comme précurseur du mouvement Riot Girl. De par son propos antisexiste et radical, Bikini Kill a inspiré énormément de groupes féminins dans les années 90-2000 et encore aujourd'hui énormément de groupes. Et sans doute le groupe d'après d'ailleurs, qui est Gossip. On boucle la boucle avec ça, c'est un groupe directement héritier du mouvement Riot Girl aussi, plus mainstream on va dire, avec Bess Ditto, hein, qui est une chanteuse connue qui a fait beaucoup d'albums. Et là on est dans les années 2000, hein, c'est sur Gossip. Voilà, donc c'était quand même vraiment court, mais c'est une histoire ultra raccourcie et vraiment pas exhaustive. Et si on me demandait de citer une héritière actuelle de ces prêtresses mythiques blues, rock, puis punk, eh bien la première personne à laquelle je penserais serait l'extraordinaire rappeuse américaine Lizzo, que vous entendez derrière. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Lizzo est une femme féministe, noire, je vous rappelle qu'on est aux USA, donc c'est pas facile tous les jours, bisexuelle et obèse. Tout pour s'en prendre plein la gueule en permanence, hein, bon. Mais quand même, je vais finir sur cette info. À l'heure actuelle et depuis quelques mois déjà, Lizzo est première des charts américains. Moralité, il y a de l'espoir.
Merci, merci Patricia pour avoir fait en temps record.
J'ai un débit incroyable.
On se retrouve en fin d'émission avec le groupe Gru, hein, donc à tout à l'heure. Vous pouvez toujours nous rejoindre pour écouter le groupe et puis d'autres personnes au restaurant de la Canaille, avenue Pierre Sémard à Bourg. Élodie, toi, tu as fait le tour des programmes. Demain, c'est le week-end, c'est les journées européennes du patrimoine. Et donc,
je vais aller voir si en fait le matrimoine, une notion dont on s'était emparé, osait le féminisme il y a quelques années. Bon, bah, faut croire que c'est devenu moins important parce que cette année, on appelle toujours les journées du patrimoine, les journées du patrimoine. C'est tout. Pas de matrimoine en question. Donc, pour voir de l'héritage au féminin, il faudra aller à Lyon, où Oser le féminisme a quand même décidé de renommer les noms de rues avec des noms de femmes. Tiens, on a toutes la même idée, hein. Du côté de HF Rhône-Alpes, des événements aussi, mais rien dans l'Ain. Donc, on est un des seuls départements à pas être représenté sur cette question. Le programme est en ligne sur le site matrimoinehfaura.com. Pour les Indinoises et Indinois, il faudra faire preuve d'imagination, essayer de visualiser ces femmes qui ont œuvré et œuvrent encore à notre énorme héritage collectif. Ces femmes toujours dans l'ombre, qu'elles soient épouses, mères, militantes, ouvrières, soigneuses, patientes, religieuses, croyantes, intellectuelles, sorcières, voilées, dévoilées, elles sont pourtant présentes. Peut-être que les journées de l'héritage, c'est pas pour tout de suite, mais avec une émission comme celle-ci et les ressources dont on dispose, pourquoi pas imaginer des rues Marcel à Pluton, Madame de Coudray ou une place la mère Brasier. On y croit pour la suite, pour les Simone, les Suzanne, les Chloé, les Marjane, les Julia ou Rose qui arrivent.
Tu es le fruit de ma victoire, la lente éclosion de nos sens. Tu nous feras des danses d'espoir et puis aussi des descendances. Sur l'écorce de nos mémoires, tu inscriras toute une enfance. Tes dessins sur nos tableaux noirs raviveront nos innocences. Thank you. petite, n'oublie pas la promesse à Nonna. Petite, n'oublie pas la promesse.
Alors même si on la chante un peu trop tôt, Promesse à Nonna, une chanson écrite par Thomas Picchio pour Francesca Solville, cette grande interprète. Interpréter des textes, c'est les faire vivre et les faire revivre. Francesca, passeuse de mots, avait sa place réservée dans cette émission. Émission qui touche à sa fin, mais juste avant de retrouver le groupe GRU, je laisse la parole très rapidement aux jeunes du Collège Victor Daubier qui proposent toute une liste de noms qu'on pourrait donner aux honorés.
Élisabeth Ier, c'est la reine d'Angleterre.
Catherine Switzer, elle a participé à une course d'athlétisme alors qu'elle n'avait pas le droit de s'inscrire pour montrer que les femmes pouvaient courir.
Eugénie Le Sommer, qui est footballeuse professionnelle et qui est capitaine.
Wendy Renard, capitaine de l'équipe de France.
Marine Brevet, ancienne capitaine de l'équipe de France de gym, qui habite à Viria.
Courtney Dowalter, qui a été la première à avoir gagné l'UTMB du Trail du Mont Blanc 2019.
J'ai choisi Amandine Henry parce que c'est une footballeuse professionnelle dans l'équipe de France et c'est la capitaine de l'équipe.
Alex Morgan, c'est une footballeuse.
Mimi Mathy, c'est une actrice.
Marine Le Pen, c'est une politique.
Amel Belt, c'est une chanteuse.
Allons-y. 1, 2, 3.
Collège Victor Daubier, 5e.
Merci à eux. C'était les jeunes qu'on a retrouvés tout à l'heure. Vous venez d'écouter Il n'y a pas que le 8 mars, animé aujourd'hui par Joël Garraud et Elodie Gadiolet. Un grand merci à Marie Rouxel, Catherine Ravana, Christine Fusarelli, Patricia Debia et le groupe GRU, Anne Autissier, l'association Réseau qui nous a accueillis à la Canaille. Merci à Pauline, notre technicienne, sans laquelle nous ne serions que peu de choses, et Thierry qui est de l'autre côté en studio. Vous pouvez réécouter cette émission en différé sur www.radio-b.fr. Bonne soirée sur Radio B. Restez à l'écoute. Et maintenant, scène ouverte, le groupe GRU et tous ceux qui le souhaitent. Chansons, poèmes sont les bienvenus.
Ok, donc on s'appelle GRU, on va commencer par un morceau qui s'appelle James Bond, référence ce gros misogyne.
Manly man, you are so proud to be man, man, hairy man, you throw your hand on women, you won't understand. You're like many men use girls just as a beer can. Can hungry man, you never care, you won't understand. This is no compliment. You're like James Bond, you're like him, don't say you're sorry. You wanna stand over me, make me feel I'm nobody. Hush, don't say you worry. Many men, shining your gun, here you stand, stand, deadly man, use your brain, unless you last in then. There ain't no cure, there ain't. 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 You're like James Bond. You're like he don't say I'm sorry. You wanna stand over me, make me feel I'm nobody. Hush, don't say you worry.
Merci. Je précise quand même qu'on est en formation acoustique, c'est la première fois qu'on fait ça. Et normalement, on a une bassiste et on est électrifié. Donc c'est très nouveau pour nous. Oui, je cherche des excuses. Tout à fait, je cherche des excuses. Le morceau s'appelle Until. Ah oui.
To me, don't talk 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 to me. People don't talk about what we're supposed to do. We know I say, man, you're on business. Next time I need a sound of creepy advices, I will call in your grave. And you ain't answer right, guess. Till this time. Don't talk to me, don't speak to me, don't ever, ever come to me. Till this time. Don't walk to me, don't run to me, don't ever think you're friend to me. Maybe my way's wrong, but let me sleep all day, living on and on meals. Mummified in my fridge, maybe my hope is gone. Maybe I just want to stand alone in my split. Tomorrow, tomorrow, I will rise clear till this time. Talk to me, don't 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 talk to me. Don't call me, I won't pick up my phone. Don't call me, I won't open my door. Don't text me, I delete your message before it and just give a gap. Yes, Jesus said he want to eat up.
Merci. On va finir sur un morceau d'une minute 21. 1 minute 10 si on va vite.
Don't you kiss me, don't you kiss me. Fire on safety, fire on safety. Morning, warning, eyes cry. Not even a try, not even a try. Don't you kiss me, don't you kiss me. Fire on safety, fire on safety. Morning, warning, eyes cry. Not even a try, not even a try.